Les podcasts de Nouvelle Acropole France. La philosophie des mythes et des mystères. Conférence de Fernand Schwartz, philosophe de l'anthropologie, écrivain, à Paris, espace Le Moulin, le 22 novembre 2017.
Le mythos est une des formes du langage que les Grecs avaient choisi pour expliquer comment les choses venaient à l'existence avec des récits comme celui que vous avez entendu, qui est celui de la Théogonie d'Hésiode, qui est un texte du 6e-7e siècle avant Jésus-Christ. Avec ces récits mythiques, qui viennent du mot mythos du grec, il tâchait d'utiliser une image, des images, des symboles, des matériaux qui permettaient donc l'éveil de l'imagination et de pouvoir rentrer à l'intérieur de soi-même sans pour autant au début comprendre quoi que ce soit. Comme c'était le cas, je pense, pour vous, lorsque vous avez entendu les récits. Ne pensez pas que les Grecs faisaient autrement au début. Oui, mais derrière ces récits qui apparemment sont surprenants et qui au départ peuvent peut-être rien dire aux profanes, lentement se dégagent des significations profondes sur l'origine du monde, des hommes, des qualités humaines, de la nature, enfin de l'univers tout entier, dans sa dimension visible et invisible. Ça, c'est une façon de traiter le langage, et on va l'appeler mythique, langage mythique. Il y a une deuxième manière de traiter la réalité ou le langage, qu'on va appeler logos. Logos veut dire raison, intelligence, discours. Il s'agit là d'une autre catégorie de langage, des familles de langage. Il n'emploie pas des symboles, il n'emploie pas des images ou des représentations. Il emploie des concepts. C'est ce que nous appelons tout simplement le langage rationnel, qui permet une compréhension rationnelle des choses. Et c'est le concept qui est le plus important pour le logos. Mythologie et philosophie sont emparentées les unes aux autres. Faut que vous le compreniez. Puisqu'en général, dans le langage courant, nous pensons qu'ils sont opposés et qu'il s'agit des choses, l'une qui parle de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, donc totalement inappropriées pour comprendre le réel et la nature des choses, et un autre tout à fait approprié qui est le langage rationnel, d'où est issue en fait la philosophie. Mais en réalité, la philosophie conserve avec la mythologie une continuité secrète qu'on ne vous a pas expliquée en terminale. Oui, c'est certain. Et c'est dommage. C'est dommage, c'est pour ça que je veux utiliser cette extraordinaire opportunité de la Journée mondiale de la philosophie pour clarifier que sans mythologie, il n'y aurait jamais eu des philosophies. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui mieux comprendre. Et il y a des grands chercheurs, donc en français, très importantes, décédés déjà, Jean-Pierre Vernant, au Collège de France, qui avait dit la chose suivante. Transposé dans une forme laïcisée et sur les plans d'une pensée plus abstraite, les systèmes de représentation que la religion grecque a élaborés, c'est ce qu'a fait la philosophie. Les cosmologies des philosophes reprennent et prolongent les mythes cosmogoniques, comme celui qu'on a entendu. Il ne s'agit pas d'une analogie vague entre la philosophie d'Anaximandre et la théogonie d'Hésiode, Un grand chercheur anglais qui s'appelle Comfort montre que les structures se correspondent dans le détail. Oui, ça qui peut surprendre. Sans la théogonie, dit-il, la physique des stoïciens ou celle d'Aristote sont impensables. Au lieu de filiation, vous avez entendu un tel est né d'un tel et l'autre a fait naître un tel. Bien, au lieu de filiation, la philosophie parle de causalité. Mais finalement, le père est la cause de l'enfant, le père et la mère sont la cause de l'enfant. Les divinités vont s'effacer devant la réalité des éléments physiques. Ainsi, Gaïa devient la terre, Uranos, le ciel, Pontos, l'eau, et ainsi de suite. Là est la rupture. Mais en même temps, la transgression qui fait la philosophie, et comme on le verra plus tard, le point qui peut nous relier au retour de la philosophie vers le mythe. Mais le cosmos des physiciens va hériter de toutes les caractéristiques fondamentales que nous retrouvons dans les mythes, avec ses concepts et ses structures. Des concepts comme harmonie, justesse, beauté, hiérarchie, finalité, polarité, sont tous des catégories qui sont nées dans les mythes grecs, et que les philosophes n'ont eu qu'à accueillir et à nommer d'une façon plus abstraite et précise. Mais en réalité, toute cette construction existait déjà, et c'est pour ça que beaucoup parmi nous disons qu'il n'y a pas eu des miracles grecs. Parce qu'en réalité, c'est une continuité. Puisque la philosophie est née un tout petit peu du mythe. Et sans le mythe, comme je viens de l'expliquer, il n'y aurait jamais eu de philosophie. Alors, bien entendu, si nous revenons à la conception de ces deux familles complémentaires, deux voies d'accès à la vérité, l'une conceptuelle et l'autre par image, nous nous retrouvons finalement avec la structure de notre cerveau. Notre cerveau, avec deux hémisphères gauche et droite, traite les informations, l'une par concept et l'autre par image. Faut-il choisir entre le concept et l'image, ce serait très imprudent, puisqu'on manquerait d'une partie de notre cerveau. Par conséquent, la sagesse impliquerait, bien entendu, au moins au XXIe siècle, de ne pas les opposer, mais de les relier en complémentarité, et ça c'est tout l'enjeu actuel. Serions-nous capables de relier les mots, les concepts aux images, et vice-versa, pour que les mots aient un sens plus profond, et pour que les images ne deviennent pas qu'une simple fantaisie. Ça, c'est l'enjeu. En chacun de nous, c'est lié de choisir une logique d'inclusion plutôt qu'une logique d'exclusion dont nous fûmes victimes depuis des siècles en Occident. Mais je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard et peut-être avec vos questions. Mais simplement pour mettre en scène le sujet, qui n'est pas évident, puisque il faut quand même le mythologiser et le philosopher à la fois. Ce qui est un bon sujet. Je voudrais, pour exprimer un tout petit peu ma pensée un peu plus claire, vous rappeler que l'objectif de la philosophie n'est pas simplement l'amour de la vérité ou de la sagesse. Ça peut être aussi la sagesse et l'amour, si on retourne les deux mots qui le composent. On peut faire les deux, et en même temps. Chercher la vérité, ce qui est authentique, et en même temps l'exprimer et le vivre avec amour. Dans ce sens-là, la philosophie grecque et antique propose la question de qu'est-ce qu'est la vie bonne. Pas une bonne vie, parce qu'on peut être un bon vivant, mais pas avoir une vie bonne. Parce que vous aussi, oui, donc, oui, oui. Donc, la question fondamentale pour les philosophes n'est pas simplement de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais surtout qu'est-ce qui est bon pour vivre. Et ça, c'est pas simple. Mais dans les mythes grecs, notamment un qui est très important, qui est celui de l'Odyssée, avec ce fameux personnage Ulysse, se pose la question de l'individu qui cherche à vivre cette vie bonne plutôt qu'une bonne vie. Il aurait pu, après avoir le génie d'avoir imaginé le fameux cheval de Troie, qui a permis à la fin aux Grecs mycéniens de gagner la bataille, après 10 ans quand même de siège, il aurait pu rentrer avec les rois, avoir toutes les distinctions, plein des pouvoirs. Il choisit pas ça. Il choisit son retour à la maison. Et oui, auprès des siens. Il choisit de retourner à cet endroit où il est à sa place, dans l'ordre du monde. Et ça, c'est la vie bonne. Trouver sa place au sein de l'ordre du monde et la vivre en harmonie. Et en fait, tous les êtres humains cherchent leur place. Parce que quand on se dit « qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Derrière ça, il y a une question essentielle. Quelle est ma place dans la société, dans l'univers, dans ma famille, dans l'existence ? Bon, chacun devra répondre par soi-même, bien entendu. Mais l'Odyssée, qui est le retour d'Ulysse à la maison, donc après le chaos de la guerre, il va vers la maison, c'est-à-dire vers l'ordre. L'ordre qui pour lui est harmonie et qui lui permet de se relier à ses semblables, à la nature, à l'univers. Mais le problème, c'est que c'est pas facile, ce retour. Rebrousser chemin, sortir des vanités du monde, et accepter simplement sa vraie destinée, lui en impliquer 10 autres années de pèlerinage, plein d'aventures et plein de tentations. Laquelle des tentations fondamentales? La tentation d'être un surhomme, un immortel, avoir le pouvoir sur les choses. Calypso, qui est une sirène extraordinaire, une sorte de déesse particulière, l'ensorcelle, le prend avec lui, lui promet plein de choses. Lui sait qu'il peut pas s'en sortir de cette extraordinaire magicienne, mais il refuse chaque fois, il refuse. Jusqu'à qu'un jour, les dieux Hermès, seigneur de la communication, des liens entre les choses, des connaissances. Il vient de dire à Calypso, maintenant il va falloir que tu le laisses partir. Parce qu'au fond, Zeus de l'Olympe a vu tout ce que cet homme mortel était capable d'éprouver et de choisir et de pas tomber dans des pièges. Et bon, c'est le fameux retour. L'Odyssée est un voyage mouvementé, comme vous le savez. Donc, c'est un périple d'épreuves. Parce que le mythe, fondamentalement, est basé sur la notion d'épreuve. Puisque le mythe est fondateur, de toutes les traversées antérieures de l'être humain, avec son lot d'épreuves, et on résout le mythe en assumant les épreuves et en les transcendant. À quoi servent ces épreuves dans les mythes? Mais à développer les potentiels de chacun, à donner des forces et des moyens insoupçonnés jusque-là, puisque la nécessité faisant foi, nous reprenons de la puissance où apparemment il n'y en a pas. Ça, c'est la puissance des mythes, de cette voix symbolique qui appelle l'âme à s'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur. Si le mythe travaille fondamentalement avec la notion d'épreuve, le langage du logos, le langage rationnel et philosophique travaille avec la notion de preuve. Puisque quand on est en philosophie, comme en science, il faut démontrer. Donc ce langage servira au droit, au contrat, à tout ce qui est à la science, à tout ce qui est preuve. Épreuve et preuve peuvent être synonymes si l'épreuve devient la preuve que l'individu l'a accomplie. C'est pour ça qu'il ne faut pas les distinguer en les opposant. Il faut pouvoir les relier pour que l'épreuve ne reste pas qu'une épreuve, mais qu'il devienne la preuve que nous venons de nous accomplir dans un plan, dans une qualité qui nous est supérieure. Donc oui, ça marche en simple. C'est une dialectique très profonde dans l'être humain que les Grecs, au départ, ont très bien mise en scène et clarifiée. L'Odyssée est, en fait, la matrice de toute l'histoire de la philosophie. En quittant son monde, en faisant face au chaos, en revenant à sa place, il cherche une harmonie perdue. Il va de la guerre à la paix, Ulysse, de la haine à l'amour, de l'exil à chez soi, du chaos à l'harmonie, de la mauvaise vie à la bonne vie. Dans toutes ces épreuves jalons, les passages par lesquels il faut passer pour s'accomplir. Et comme cette bonne vie ou l'accomplissement de l'être est aussi la finalité de la philosophie, nous pouvons dire que nous avons dans l'Odyssée d'Homère le mythe fondateur de la philosophie. Ceci nous amène donc un autre point que je voulais rappeler, et qu'on va retrouver dans les mythes comme dans la philosophie, qui est la question de la conscience. Oui, parce qu'on ne peut pas philosopher sans conscience. Mais on ne peut pas passer des épreuves, des métamorphoses sans conscience. Alors, la capacité d'auto-réflexion d'un sujet capable de retour sur lui-même, et la conscience. La conscience n'est pas simplement une sensation ou sentir que quelque chose existe. C'est pas ça être conscient. Ça va beaucoup pour l'être humain, je veux dire. Pour l'être humain, ça va plus loin. C'est un retour sur le même et par tel retour des mémoires et d'organisation, établir un comportement. On revient à soi, on garde cette expérience par la mémoire et on imagine, on se représente une nouvelle organisation pour pouvoir changer des postures, changer des comportements, bref, agir. Si on refait pareil qu'avant, ça veut dire que tu n'étais pas conscient. Et c'est pour ça que l'être humain est capable de répéter plusieurs fois ces mêmes erreurs, les mêmes erreurs. La raison n'y n'est pas conscient. Quand on agit en mécanicité, en inertie, en confort, tout simplement, pour pas penser, on dit. Le grand confort, c'est « ne parle pas de ça, je veux rien savoir ». Ça vous est jamais arrivé? Bon. Bon, à ce moment-là, je vous garantis une chose, on vient de perdre la conscience. Il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus de mythe non plus. On n'a rien pour les apprendre. Parce qu'il nous faut un retour à nous, c'est-à-dire un dialogue avec soi-même. Pour Socrate, être homme n'est pas dire « j'ai », mais dire « je pense ». Je l'ai dit avant Descartes, il l'avait dit. Et la question fondamentale est toujours « je pense, donc je suis ». Donc, être et pas exister. Mais ceci est très, 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 très dur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, ça veut dire être. Donc, lever sa conscience au plus haut de soi-même. Sans se laisser porter par les divagations de l'existence. C'est-à-dire les différents tiraillements, les bip-bip, les SMS, toutes ces choses-là. Qui nous font penser que nous existons, mais nous ne sommes, mais pas d'être, on n'est pas, on existe seulement. Donc, je pense, donc je suis, implique placer la pensée dans un très haut lieu. Nous, dans notre association, nous l'avons appelé l'acropole. Parce que c'est la partie haute de la ville, le sommet de la montagne, la partie la plus haute de vous-même. À chacun de la gravir, la montagne, ou de descendre, on ne sait jamais où vous êtes. Donc, l'homme est présent à sa vie par la conscience. Oui, sinon on ne peut pas être présent à nos vies. On peut vivre, mais pas être présent à nos vies. Si on n'est pas présent en nos vies, on ne peut pas tirer une expérience. Donc, on ne pourra pas intérioriser ce qu'on vit. Et sans dimension intérieure, nous ne sommes pas. Mais nous existons, mais nous ne sommes pas. Dès là, l'importance, tantôt pour la philosophie comme pour le mythe, de la vie intérieure qui implique un retour à soi. Et l'Odyssée est un retour à soi. Parce que l'Odyssée veut dire le chemin du retour. Et c'est pour ça qu'il est, ce mythe, la matrice de la pensée philosophique. Donc le retour à soi implique une investigation dirigé vers la sphère du dedans, mais avec une orientation pratique qui est celui de changer ses propres comportements. Puisque pour cette fameuse vie bonne, il faut se modifier, il faut se transformer. Bon, bref, il faut devenir meilleur. Les Grecs disaient qu'il fallait développer l'excellence. L'excellence s'appelle en grec « arete », que on peut traduire aussi par « vertu ». Tempérance, être juste, modéré, autolimité, se contrôler, bref, voilà à quoi sert le retour à soi. Oui, parce que sinon, on dit « je suis hors de moi », pour dire « je suis en colère ». Donc, si on sort de soi, on perd notre centralité. Si on rentre en soi, on garde notre centralité, donc notre équilibre. Et alors, la fameuse harmonie peut revenir. N'oubliez pas que cette harmonie est née, selon les Grecs, de deux divinités. L'amour, Aphrodite, et le combat Arès. Donc apparemment, pour que l'harmonie s'installe, il faut vaincre des combats intérieurs avec beaucoup d'amour. Et vous avez donc la formule de l'harmonie. Et ça, ça fait partie des mythes. Mais vous voyez, ce sont des équations. Amour plus combativité égale harmonie. Donc derrière ces histoires apparemment d'amour, des dieux volages très étranges, il y a des équations presque mathématiques pour comprendre le destin de l'homme, de l'humanité. Je reviens au XXe siècle, je vais vous citer une petite phrase qui est écrite dans le livre rouge Carl Jung, qui est un grand psychanalyste, qui a travaillé beaucoup le monde mythique et symbolique. Celui dont le désir se détourne des choses extérieures parvient au siège de l'âme. S'il ne trouve pas l'âme, l'horreur du vide s'empare de lui et la peur le poussera à coups de fouet encore et encore dans une quête désespérée des choses creuses de ce monde auquel il aspirera aveuglément. Il deviendra le bouffon de son désir sans fin. Il s'éloignera de son âme et la perdra pour ne jamais la retrouver. Il courra après toutes les choses, il les tirera toutes vers lui, mais ne trouvera pas son âme, car il ne la trouvera que lui. Vous voyez, à des millénaires de distance, les êtres humains, par résonances diverses et variées, par des voies différentes, se renvoient des messages similaires. Je vous ai parlé de la conscience, du retour à soi, comment les hommes, selon la mythologie grecque, sont devenus conscients. C'est pas évident. C'est le mythe de Prométhée qui va nous éclairer. Je fais un aller-retour entre philo et mythe, d'accord ? Le mythe de Prométhée est un grand mythe chez les Grecs, et il y a eu plusieurs versions. Parce que bon, on ne va pas se contenter d'une seule. L'intérêt des mythes, c'est qu'ils sont pluridimensionnels. Ils peuvent aller dans plusieurs directions. Ils pensent en volume, les mythes. Par contre, les concepts sont unidimensionnels et univoques. Je vais m'expliquer rapidement dans le cas où j'étais un peu abstrait. Pour un concept, A n'est pas B. Et B ne peut pas être A. C'est simple, hein? Et d'ailleurs, nous croyons toujours que ça n'est pas ça. D'accord? Mais ça et ça font ça. Donc, les deux qui sont pas ça sont en même temps ça. Et là, la raison, boum, explose. Oui, parce qu'elle ne peut pas gérer en logique du « et », la raison gère en logique du « ou », noir ou blanc, chaud ou froid, homme ou femme. Mais la réalité, elle n'est pas noire ou blanche, elle n'est pas chaude ou froide. La réalité est noire et blanche, chaud et froid. Quelle heure est-il sur la planète? Toutes les heures. Et en même, mais ça nous est difficile de savoir qu'il y a des gens qui sont en train de s'élever, d'autres sont en train de petit déjeuner, d'autres sont en train de dormir. C'est la simultanéité en même temps des choses, cette synchronicité des choses. Là, là, le symbole, lui peut. Le langage symbolique, qui est le langage et la grammaire de mythe, lui peut être une chose et une autre à la fois. C'est extraordinaire. Le feu peut être la sagesse et la passion. L'eau peut nous donner à boire et noyer, comme dans le déluge, un continent. Et on pourrait parler de tout ça. Donc, les symboles, sont multidimensionnelles, comme les images. Une image peut contenir plusieurs significations. Par contre, un concept n'a qu'une seule signification. Le concept nous facilite la vie parce qu'il nous permet d'avoir le langage. Et je ne pourrai pas donc vous parler et vous expliquer ce que je fais sans cette logique conceptuelle. Vous voyez ? Mais en même temps, si je ne mets pas un peu de créativité, un peu de poésie et un peu de délire, vous serez tous en train de dormir paisiblement et pas seulement quelques-uns. Non, c'était pour réveiller, c'est tout. Donc, vous comprenez ? Nous passons de l'un à l'autre, mais la réalité, elle est inclusive. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que les mythes, il y aura plusieurs variantes. Ne soyez pas sidérés, que ce soit en Grèce, en Égypte, en Inde, sur le même personnage et le même récit, vous en trouverez plusieurs récits. Plusieurs variantes. Ce qui enrichit le réseau de signification, plutôt que le réduire, ou vouloir vous compliquer la vie dans un chaos terrible. Non, on se calme, on prend son bâton de pèlerin, on avance dans le récit, et on commence à comprendre. Le mythe de Prométhée, que je vais utiliser surtout, est celui dont parle dans les Protagoras Platon. Il parle de la création de l'humanité, comme source de mouvement. L'humanité devient une vie en mouvement, capable d'agir librement, mais aussi, et en même temps, les dangers de ce que les Grecs appelaient hubris, la démesure, l'orgueil, enfin, l'excès. Oui. Nous sommes devant cette paradoxe de cet être qui est si bien pensant qu'il peut arriver à produire du chaos par des mesures. C'est inutile, je pense, vous expliquer ce que l'être humain peut faire des chaotiques ou des démesurés et d'excessives dans les temps actuels, je pense. Parce que c'est inutile de vous donner des exemples. Vous ouvrez un journal, vous regardez la télé et vous verrez tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, sachez que cette partie-là est largement constatée par rapport au texte de Platon. En même temps, il y a cet être qui est en pleine bouillotte et en errance permanente, parce qu'il faut savoir que depuis que l'espèce humaine existe, elle bouge. Ah oui, elle bouge, elle se déplace. C'est une espèce particulière, qui se sédentarise et d'un coup elle se déplace, elle se replace. Et les Grecs le faisaient souvent. Quand une cité avait beaucoup de monde, ou considérait que son équilibre était instable, un groupe humain portait le feu de la cité ailleurs et il partait à l'aventure. Oui, et c'est comme ça qu'il fut créé, par exemple, Marseille. Oui, c'est une colonie d'Éphèse. Voilà. Et d'autres villes, ne vous inquiétez pas, furent créées comme ça. Et c'est pas qu'ils passaient comme ça. Ils cherchaient des destins inconnus en portant le feu de leur cité. Et aussi, donc, leur mythologie et leur dieu. Et c'est pour ça que Marseille est une ville théoriquement dédiée à Apollon. Bon, c'était un crochet pour que vous voyez. Mais toutes les villes des Syracuse furent presque tous des Siciles, pardon, la Grande Grèce furent tous comme Syracuse créées par les Grecs. Alors, de quoi nous parle ce mythe de Prométhée? Bon, il nous parle fondamentalement de titans. Ils étaient mentionnés. Les titans dans notre généalogie à un moment donné, comme le fut Cronos, Rhea, etc., qui sont frères. L'un s'appelle Épiméthée et l'autre s'appelle Prométhée. Épiméthée peut se traduire par « celui qui comprend après coup ». Mais oui. Bon, mais il comprend, mais après coup. C'est déjà bien. Donc, il n'est pas dépourvu des raisons ou des pensées. Il comprend après coup. Ou, disons, celui qui réfléchit après l'action. Il est caractérisé pour avoir un esprit en escalier. Mais ne le prenez pas à mal. Il avance un coup, après un autre, mais il n'a pas la vue d'ensemble. Vous comprenez l'esprit de l'escalier? C'est une invention de la langue française pour expliquer la rationalité française. Bon, mais il s'appelle Épiméthée en Grèce. Ne voyez aucune attaque là-dessus. Mais c'est intéressant. Mais vous verrez qu'il n'est pas si sot que ça. Vous verrez. Prométhée et lui est celui qui réfléchit avant l'action. Il est intelligent, pour être clair, et pas simplement analytique. Il ne fonctionne pas sur le mode analytique. Il fonctionne sur le mode synthétique de l'intelligence. Alors, ils sont là, ces deux frères, et ils sont conviés par Zeus, à un moment donné, à donner les qualités au monde manifesté, à tous les vivants. Et ils sont très honorés. Hein? Et Épiméthée demande à son frère, toujours considéré les plus malins, les plus intelligents, justement, laisse-moi faire d'abord, et après tu continues. Bon, Prométhée, qui s'est moqué beaucoup parfois de son frère, devant tous les dieux, il dit, bon, mais vas-y. Et il prend une boîte qui lui est donnée par Pandore. En même temps. Et Prométhée va donner tout plein de choses à tous les vivants. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le mythe. En tout, la distribution consistait de sa part à égaliser les chances. Retenez ce mot. En tout, la distribution consistait de sa part à égaliser les chances. Et dans tout ce qu'il imaginait, il prenait ses précautions pour éviter qu'aucune race ne s'éteignît. Mais une fois qu'il leur eut donné les moyens d'échapper à des mutuelles destructions, voilà qu'il imaginait pour elle une défense commode à l'égard des variations de température qui viennent des Zeus. Il les habillait d'une épaisse fourrure ou un corps de solide carapace, propre à les protéger contre le froid, mais capable également d'en faire autant contre les brûlantes chaleurs, sans compter que quand ils iraient se coucher, cela constituerait aussi une couverture qui pour chacun serait la sienne et qui ferait naturellement partie de lui-même. Il chaussait telle race de sabots, toujours ce sont des animaux, hein, race d'animaux, des cornes, telle autre de griffes, solides et dépourvues des sangs, ensuite de quoi il choisissait des aliments différents pour les différentes races, pour certains l'herbe qui pousse de la terre, pour d'autres les fruits des arbres, pour d'autres des racines. Il en a auquel il a accordé que leur aliment fût la chair des autres animaux, mais il leur attribuait une fécondité restreinte, tandis qu'il attribuait une abondante fécondité à celle qui s'est dépeuplée ainsi, et par là il assurait une sauvegarde à leur espèce. C'est bien. Vous voyez qu'il n'est pas aussi bête. Mais, comme Épiméthée, chacun sait, cela n'était pas très intelligent, dit le mythe. Il ne se rendit pas compte qu'après avoir ainsi gaspillé le trésor des qualités au profit des êtres privés des raisons, il lui restait encore les êtres humains qui furent dépourvus de tous les atouts qu'Épiméthée pouvait donner. C'est alors qu'arrive son frère qui lui dit d'un air hébété et accablé, qui est incorrigible. Oui, en un sens, c'est bien ce que tu as fait, mais t'es rendu compte que tu oubliais les humains, que tu as tout donné aux animaux et qu'il ne reste plus rien pour eux, ni carapace, ni griffe, ni aile, ni nageoire, ni fourrure, plus aucun don qu'ils puissent les équiper pour leur permettre de survivre face à ce règne animal qui leur sera hostile. Bon, voilà. Voilà ce qui s'est passé avec Épiméthée. Pas mauvais garçon. Mais apparemment, il nous a oubliés. Et je me demande vraiment si c'est le cas, puisque combien de fois on pense après coup? Donc, le mythe peut-être. Alors, Prométhée va se dire, bah bon, mais je fais quoi alors? Et il dit, bon, je vais faire quelque chose, et en fait, qui est interdit. Il va transgresser l'ordre naturel des choses. Et il va se conduire comme un voleur. Il va voler le feu qui siégeait chez Héphaïstos, le dieu forgeron, qui n'est pas le feu simplement de la forge, mais le feu de toutes les créativités, de toutes les intelligences, de toutes les créations. Et il va arriver avec ce feu chez les hommes et il va leur donner. Et comme vous pouvez imaginer, ça n'a pas plu du tout à Zeus. Parce que lui est garant d'un ordre naturel qu'on pourrait dire mécanique. Oui. Totalement logique, parce que cet ordre que vous connaissez, qui est l'ordre de la nature, avec ses règnes distincts et différents, est extraordinaire. Et nous sommes toujours en extase devant comment les animaux se complètent entre eux, comment il y a une écologie des systèmes dans la forêt ou dans les montagnes. Ces natures naturelles nous éblouissent tout le temps. Mais nous, on sait qu'on fait partie d'elle, mais pas tout à fait. Voilà la problématique humaine. C'est pas facile d'être humain, au moins pour les humains. Et avec cette transgression, Zeus se met en colère, évidemment, n'est pas content, et il va l'enchaîner dans un grand rocher au Caucase, et il va le condamner à que son foie soit mangé tous les jours par un aigle, qui est un aigle de Zeus, et en même temps qu'il puisse croître à nouveau pour que le lendemain il puisse être remangé par l'aigle de Zeus. Et il le menace qu'il ne sera jamais délivré. Voilà de quoi il le menace. Le foie est le siège des passions, selon les anciens. Et bon, mais c'est sa passion, celui de Prométhée, enchaîné dans le rocher, qu'il vit au jour le jour. À ce moment-là, quand il est enchaîné, il va dire, sur le mythe, « Écoutez plutôt les misères des mortels et comment, d'enfants qu'ils étaient auparavant, j'ai fait des êtres doués de raison et de réflexion. Je vais vous le dire, non pour dénigrer les hommes, mais pour vous montrer de quelle faveur ma bonté les a comblés. Autrefois, ils voyaient sans voir, ils écoutaient sans entendre. Et semblables aux formes des songes, ils brouillaient tout au hasard tout au long de leur vie. Ils ne connaissaient pas les maisons des briques ensoleillées. Ils ne savaient point travailler le bois. Ils vivaient enfouis comme des fourmis agitées au fond des antres sans soleil. Ils n'avaient point des signes sûrs, ni de l'hiver, ni du printemps fleuri, ni de l'été riche en fruits. Ils faisaient tout sans user de leur intelligence, jusqu'au jour où je leur montrais l'art difficile de discerner, les lever et les coucher des astres. J'inventais pour eux la plus belle de toutes les sciences, celle du nombre. Et l'assemblage des lettres qui conserve le souvenir de toutes choses et favorise la culture des arts. Les premiers aussi j'accuplais les animaux et les asservis aux jougs et aux barres pour prendre la place des mortels dans les travaux les plus pénibles, et j'attelais aux chars les chevaux de scie, aux rennes, luxe dont se part l'opulence. Nul autre que moi non plus n'inventa des véhicules aux ailes des lins, où des marins courent les mers, où les marins courent les mers. Voilà les inventions que j'imaginais en faveur de mortels et moi-même. Infortuné, je ne vois aucun moyen de me délivrer de ma misère présente. Mais son papa, au fond, son roi, derrière son courroux, avait mis en place un mécanisme étrange, que par l'intelligence, les hommes s'ouvrent au mystère et puissent accomplir le retour à soi à travers justement des épreuves qui leur permettent de se vaincre eux-mêmes. Ainsi, un être semi-divin, que vous connaissez tous certainement, Héraclès, Hercule pour les Romains, devra affronter 12 travaux ou épreuves pour s'accomplir. En s'accomplissant, il réveillait en lui-même la divinité en l'homme. En le faisant, il a pu délivrer Prométhée. Et ainsi, les châtiments de Zeus est devenu la libération de Prométhée à travers un semi-humain, un héros, qui, en faisant les épreuves que le destin lui commandait, a pu libérer ce grand titan. Et ça, c'est très, très intéressant. Puisque ce qu'apporte Prométhée est distinct d'Épiméthée. Épiméthée travaille pour l'égalité des chances. Il essaye que tout rentre dans un ordre plus ou moins égalitaire dans lequel tout le monde a ses chances. Épiméthée est l'homme de l'égalité, enfin les dieux, le principe de l'égalité des chances. Mais pour l'homme, ça ne suffit pas. Pour l'être humain ne suffit pas. Prométhée est le titan qu'apporte la liberté. Oui, et c'est ça qu'il faut méditer. Puisque qu'est-ce qui apporte la liberté par l'intelligence, les discernements et les passages des épreuves, l'accomplissement de chacun. Pour les anciens, la liberté, c'était quoi? C'est la plus grande liberté n'était pas de faire ce qui nous plaît, mais de se libérer des passions qui nous rendent esclaves de nous-mêmes. C'est liberté et libératrice de ce qui est le plus noble dans l'homme. Ainsi, ce principe d'intelligence, d'être, et je reviens donc à la vie bonne, libère le titan de sa transgression apparente du monde naturel pour intégrer la conscience dans la dimension de l'intelligence discernante au-delà de toute forme de mécanicité. Seulement la liberté intérieure et profonde peut nous libérer de cette mécanicité, de cette insouciance confortable qui nous empêche d'accomplir nos propres responsabilités, c'est-à-dire notre propre destin d'âme. Voilà donc pourquoi la conscience, au niveau du mythe, naît avec le mythe de Prométhée. Voilà le lien important. Et vous voyez comment ils ont très bien joué, ces gens qui faisaient des mythes, donc des histoires pour des enfants. selon nos ancêtres du XVIIIe et XIXe siècle, qui pensaient que tout ça était baliverne. Derrière ces mythes se trouvent des vérités exceptionnelles que la philosophie, par sa capacité de donner du sens, donc une compréhension et un vécu, permet de libérer, comme l'a fait Héraclès pour Prométhée. Alors, maintenant nous arrivons presque à la fin. Comme vous l'avez compris, notre société occidentale s'est hypertrophiée de logos. Trop de logos, tu le logos. Trop de paroles, trop de discours, tout le discours. Nous sommes devenus sourds aux paroles. Nous ne croyons plus à ce qu'on nous dit. Peut-être nous avons des raisons. Mais il y a un contre-coup à cette sourdité. Celle de se réfugier dans des images dont nous ne comprenons pas le sens. Il nous faut nous relier à nouveau. Mythos et logos. Pas facile. Pas facile. Pourquoi? Parce que nous vivons une époque difficile qu'on peut appeler de désenchantement du monde. Et il nous faut réenchanter le monde. Inutile de se plaindre, maintenant on sait exactement pourquoi ou comment, et même si on sait ou on ne sait pas, il faut donner une dimension d'enchantement à l'existence pour qu'elle soit vivable. Nous avons besoin d'un monde vivable. Les Égyptiens l'appelaient un monde habitable. C'est-à-dire un monde où on se sent chez soi, habitable. J'habite un monde où je me sens chez moi. Ce n'est pas le rêve de chacun, je le pense. C'est pas tant d'avoir sa maison à soi, je pense, mais une cohérence, un ordre intelligent que les Grecs appelaient cosmos. Et nous sommes dans le temps nécessaire pour comprendre l'importance du réenchantement. Nous devons redonner vie à la nature, pas simplement comme chose, mais comme être vivant. Nous devons comprendre à nouveau que l'art sert à nous émouvoir, à toucher notre profondeur. Et ça, ce sont des formes de se réenchanter. Voir quelque chose de beau appelle le beau en nous. Nous sommes des êtres privilégiés. Nous pouvons être sensibles à la beauté. Pas simplement physique, la beauté des gestes, la beauté de l'esprit. Nous pouvons être sensibles à ce qui est bon et juste. Nous ne pouvons pas gâcher cette opportunité exceptionnelle qui permet de réenchanter l'existence. Ainsi, le retour du mythos au monde du logos est indispensable. Oui, parce que le logos, plus ou moins, commence à le connaître. Et comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas éviter faire l'économie de lui, parce qu'il nous donne du sens. Il nous fait comprendre. Le problème, c'est que l'hypertrophie du logos de l'Occident a créé des aliénations. Aliénation vers l'économie, aliénation vers la spéculation, aliénation vers l'alcool, aliénation vers plein de choses. Une aliénation ne veut pas dire que la chose en soi est mauvaise. L'aliénation veut dire qu'on ne pense qu'à ça, ou qu'on est totalement dépendant de ça. Nous vivons effectivement un monde aliéné. Et bon, il faut s'en sortir. Pour cela, il faut, je pense, accepter d'être moins dépendant des circonstances et des choses. Et donc apprendre une certaine liberté, une certaine autonomie. Ce qui me semble important. Je voulais simplement expliquer que, donc, il faut sortir de la chosification et de rendre tout unidimensionnel. Pour cela, nous devons nous réconcilier avec l'imagination. Les derniers travaux en sciences humaines nous réconfortent beaucoup. Depuis 15-20 ans, surtout les dernières dizaines d'années, nous savons que l'imagination ne nous éloigne pas du réel, mais l'influence pour le transformer. Et que nous ne pouvons pas couper ce qui est imaginaire de ce qui est dit réel ou sensible. Puisque la réalité est imaginaire et sensible à la fois. Et ça, c'est un grand scoop, maintenant. Très important. Pendant des décades, je fais partie des gens qui sont battus pour ça. Réintégrer l'imagination, la fameuse folle du logis, comme une grande dimension qui permet à la conscience d'être. Parce que l'imagination nous permet de nous représenter les choses. Et pas simplement, parce que on ne se rend pas compte jusqu'à quel point on l'utilise. Parfois, quand je donne un cours ou j'explique quelque chose, certains me disent « Ah, maintenant je vois. Avant, je voyais pas. » Et je pose toujours la question « Vous avez vu avec quoi ?» Pas avec vos yeux, puisque je t'entends de raconter une histoire, une blague, je sais pas quoi. Non, vous l'avez vu avec votre imagination. Vous avez tous cette faculté. Vous êtes parfaitement équipés. Simplement, on nous a pas éduqués dans le travail de l'imagination. Et l'éducation à l'imagination est capitale. Les mythes et leur étude et symbolique donnent une route pour s'éduquer à l'imagination. L'invention, la créativité sont d'autres routes. Et donc, il ne faut pas imaginer donc qu'elle est folle, cette imagination. Non, elle influence terriblement notre réalité quotidienne. Quelqu'un a imaginé cette bouteille. Oui, elle n'est pas venue tout seul. Ça, le micro, tout ce que nous prenons comme des choses sont en réalité des formes objectives de ce que quelqu'un a imaginé. C'est génial. Un astrophysicien, comme mon ami Tex-Antoine, ne peut pas faire une théorie de l'univers sans l'imaginer. Une fois, on discutait ensemble, et il me disait, pour qu'une théorie marche, il faut qu'elle soit belle. Je dis, tu es devenu platonicien sans le savoir. Oui, comme ça, on a fait un petit film. Oui. Et j'étais très ému, très heureux. Oui, parce que qui peut voir la beauté si c'est pas l'être humain? Et qui peut commencer à imaginer de comprendre l'univers qu'est l'être humain? Donc, on imagine, on se le représente, et ensuite on le décrit. Et on fait une hypothèse rationnelle avec un beau logos. Mais au début, on a vu, et ensuite on a parlé. Pas à l'inverse. On parle pas, et ensuite on voit. Ou autrement. Un musicien entend d'abord, avec son monde imaginaire, le son ou la poésie. Et ensuite, bon, il prend les notes et il transcrit, et nous tous, on peut lire sa musique. Donc, mythos et logos marchent ensemble. Imaginaire, imagination et raison sont complémentaires et doivent être pour nous la base d'un développement équilibré et harmonieux. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui dans cet hommage à la philosophie, mais aussi à la mythologie, pour que vous compreniez mieux comment nous traitons la philosophie et pourquoi nous ne voulons pas travailler la philosophie de manière universitaire et académique seulement. Nous ne pouvons pas rendre la philosophie, qui était au départ un dialogue de vie entre citoyens, la transformer dans une chose théorique sans pratique. Je vous remercie.